Espace, horizon inaccessible. Une émission présentée par Jean-Jacques Ibos sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace.
Interview de Magali Deleuil, astrophysicienne, spécialiste des systèmes planétaires, quatrième et dernière partie.
Donc Kepler, il est sur orbite depuis une dizaine d'années.
Les deux missions, les deux missions nominales ont été arrêtées. Corot, on a eu des problèmes électroniques et l'instrument a arrêté, je ne dis pas de bêtises, 2011 ou 2012, je ne me souviens plus bien. Et Kepler a été arrêté à peu près à la même époque, je crois 2012, je ne me souviens plus exactement, après 4 ans et quelques d'observations. Et alors, là, c'était les gyros de l'instrument qui ont été défaillants. Et alors maintenant, il est toujours en opération, mais avec une précision un peu moindre que ce qu'il avait initialement. Et Kepler a observé, en fait, lui, le même champ d'étoiles en continu pendant 4 ans et demi, avec une mesure du flux des étoiles qu'il a observées toutes les 30 minutes.
Donc ça fait une quantité d'informations monstrueuses.
Absolument.
Et c'est ça qu'on continue à explorer.
On continue à explorer ça. C'est une mine d'or, mais à la fois pour les planètes, mais aussi pour la physique des étoiles. Et on a besoin des deux. On a besoin de comprendre les étoiles pour pouvoir analyser les planètes à fond.
Mais vous dites qu'il y a un problème de gyroscope en panne, mais il continue à mesurer et à émettre ou on l'a arrêté?
On a changé de type de mission, si vous voulez. Maintenant, on appelle ça K2, pour Kepler-2, en fait. Ouais. Et au lieu d'observer le même champ d'étoiles, il fait des pointés courts de quelques mois en scannant, en quelque sorte,
le ciel.
Alors, quelques régions du ciel seulement. Mais bon, là aussi, on a des détections qui ont été faites.
Il obéit quand même, on lui...
Il est en opération, d'accord.
Oui. Et alors après, dans l'astrophysique, comme tout, on se projette sur l'avenir. Il a un remplaçant, Kepler? Quelque chose de plus perfectionné encore?
Alors, en fait, on a deux remplaçants. Il a deux remplaçants. Un qui est la mission TESS, qui a été tirée le mois dernier, ou un truc comme ça, par la NASA.
Oui, c'est très très récent. Oui.
C'est très récent. Ouais. Alors, en fait, TESS, pour moi, c'est peut-être un petit peu un super corot. Et puis le remplaçant de Kepler, à proprement parler, c'est la mission Plateau, qui est sous l'égide de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et que nous sommes en train de préparer et dont le tir est prévu en 2026.
Oui.
Alors maintenant.
Oui, voilà. C'est quand même très près, oui.
Plateau, le jour où il sera tiré, j'aurai travaillé plus de 20 ans dessus. Parce qu'on y travaille, on a commencé. Le collègue Claude Catala, qui est à l'origine de Plateau, il avait lancé l'idée pratiquement, je crois, une des dernières réunions qu'on faisait avant le tir de Corot.
Il faut le temps que ça mûrisse.
Ben, après,
que la technique se développe, qu'on trouve les financements. Et voilà.
C'est surtout un problème de financement. Il faut puis développer un instrument pour une gamme de programmes spatiaux déterminés. Ça veut dire que votre instrument va répondre à certaines spécifications en termes de masse, d'électricité, de puissance, de taille, puisqu'il va falloir qu'il rentre dans la coiffe de votre lanceur, etc. Donc il y a tout un tas de contraintes technologiques
à prendre en compte,
lorsqu'on réalise cet instrument. Alors, ce qui s'est passé avec Kepler, qui a été défini pour trouver des planètes similaires à la Terre, un an de période orbitale à peu près, rocheuse, etc., c'est que, tout comme Corot, il a dû faire le choix d'observer des étoiles peu brillantes. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que, je vous ai dit, pour voir en transit, il faut que le plan orbital de votre planète soit proche de votre ligne de visée, mais rien ne vous dit, quand vous observez le ciel dans son intégralité, vous observez un champ stellaire. Imaginons que toutes les étoiles aient au moins une planète, rien ne vous prouve que chacune de ces planètes va avoir le plan de son orbite sympathiquement aligné avec votre ligne de visée.
Par miracle.
Voilà. Ouais, ça existe. Donc, en fait,
il y en a sûrement une quantité d'autres dans d'autres plans.
Donc, en fait, si vous voulez, la probabilité de transit est équiprobable. Vous pouvez avoir n'importe quelle orientation de vos parents orbitaux. Et ce qui veut dire que vous avez peu de chances d'avoir des planètes avec dans votre axe. Donc, vous êtes obligé d'observer beaucoup d'étoiles pour avoir de bonnes chances de détecter quelques planètes.
Mais ça ne veut pas dire que ces étoiles qu'on a détectées, il n'y a rien. Il se peut qu'il y ait autre chose, mais dans un autre plan,
Absolument, et qu'on ne le voit pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de détection que vous n'avez rien. Ça peut être parce que, effectivement, le plan n'est pas favorable à, des planètes n'est pas favorable à la détection, parce que votre instrument n'est pas suffisamment performant. Enfin, alors, ça veut dire que si vous voulez avoir beaucoup d'étoiles à observer pour un champ de vue de votre instrument donné, eh bien, en fait, vous avez intérêt à observer des étoiles très lointaines qui seront plus nombreuses que dans le voisinage solaire. Donc, c'est les choix qu'on a fait, et nous, avec Coro et Kepler, les Américains avec Kepler. Et alors, ça a été super, ça pour la méthode des transits, c'est pas un gros souci. Par contre, le souci qu'il y a, c'est que quand on a voulu coupler ça avec les mesures de vitesse radiale, là, puisque vous utilisez un spectrographe, il vous faut des photons, il faut de la lumière. Mmh. Et les meilleures performances de la méthode de vitesse radiale, ben, vous les avez avec des étoiles brillantes. Donc, si vous voulez mesurer le signal d'une petite planète
qui brille peu,
qui est autour d'une étoile peu brillante, eh ben, vous êtes coincé parce que vous n'avez pas la précision de mesure actuellement. Donc, ça, c'est une limitation. Et donc, les missions de... Alors, Kepler, je vais revenir à votre question initiale. Oui, il a détecté ce qu'on appelle des candidats, des planètes a priori, sauf ces problèmes. Donc, des planètes à quelques centaines de jours de période orbitale de leur étoile, dont le transit pourrait être bien celui d'une planète rocheuse, mais on n'a pas la masse. Où on a des estimations de masse qui sont mauvaises, pas suffisamment précises, et du coup, eh bien, on ne connaît pas la nature précise de ces planètes, et on ne peut pas aller plus loin, essayer de les caractériser, d'en connaître les propriétés de façon fine et précise. Donc on reste un petit peu sur notre fin. On ne peut pas dire quelle est la fréquence des planètes, comme la Terre autour d'étoiles, comme notre Soleil. Ça, c'est une question qui reste ouverte.
Donc, il y a encore une voie de recherche importante.
Ah, mais absolument, on est loin d'avoir terminé. Et donc, ce qui se passe, c'est que les nouvelles générations de missions spatiales pour faire du transit vont faire des transits autour d'étoiles brillantes. Et donc, TESS donc, va faire un balayage entier du ciel, mais avec des périodes d'observation qui seront... relativement courte. C'est pour ça que je vous disais, quelque part, c'est un super corot. Il va observer des étoiles brillantes et faire et finalement nous faire des détections, explorer en détail la population des planètes à courte période orbitale. On va être typiquement autour des planètes à moins de 10 jours de période orbitale. Ils vont monter un petit peu autour des planètes à moins de 120 jours de période orbitale. Et puis, un coup de bol peut-être, puisqu'ils vont bien couvrir pendant une année chacun des pôles célestes. Peut-être une planète candidate comme la Terre, mais ça serait vraiment de la chance. La mission est faite pour explorer la population des planètes à courte période orbitale. Voilà. Et puis, par contre, Plateau, lui aussi, il va viser des étoiles brillantes avec un très grand champ de vue, d'accord ? Et lui est fait pour vraiment répondre à la question de quelle est la fréquence des planètes similaires à la Terre dans la zone dite habitable, là où s'il y a de l'eau pourrait être à l'état liquide, d'accord, dans une atmosphère, etc. Enfin, c'est pas une question très simple, mais autour d'une étoile comme notre Soleil.
Et donc ça, on dit, il va partir en 2026. Donc une réponse vers 2030.
Oui, je vois, typiquement ça sera ça, et la mission a été conçue de façon qu'il y ait tout un gros programme d'accompagnement au sol, d'observation au sol, justement pour avoir la masse de ces planètes. On espère avoir finalement, avec une très grande précision, la masse de peut-être quelques dizaines de planètes comme notre Terre.
Donc on se revoit dans 10 ans, on fait un point sur les deux premières années et on regarde si on a l'espoir de trouver quelque chose dans les 10 ans d'après.
Peut-être que ce serait mieux dans ce cas-là que ce soit avec mes jeunes collaborateurs d'aujourd'hui, hein, qui eux se analyseront les données et voilà quoi. Donc ça après c'est place aux jeunes et puis ils prépareront, j'espère, les missions futures parce que en fait c'est loin d'être la fin de l'histoire parce que si ensuite on veut savoir s'il y a une chance pour qu'il y ait une vie qui se soit développée, etc. Bon, alors déjà, ça pose beaucoup de questions. Quels sont les biomarqueurs, ce qu'on appelle les biomarqueurs, oui. les plus pertinents, qui seraient le moins dénués d'ambiguïté. Et puis, il faut pouvoir les détecter. Et ça, ce sont des instruments qui n'existent pas aujourd'hui.
Donc ça, c'est une très bonne approche pour nos jeunes auditeurs. Il y a de la recherche, il y a des instruments développés, il y aura des données à exploiter. Oui. Et on compte sur eux pour chercher et trouver.
Absolument, il va y avoir énormément de données à exploiter. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que par exemple, à l'époque où Coro était en opération, donc avec certains de mes collègues, qui étaient déjà, enfin, pour certains, qui étaient même basés ici, à l'Observatoire de Haute-Provence, eh bien, on a commencé tout un programme de détermination des masses, ce qu'on appelait les candidats Kepler à l'époque. Et donc, on a confirmé quelques dizaines de planètes Kepler grâce à des mesures de vitesse radiale qui ont été réalisées ici, à Saint-Michel de l'Observatoire. Et on va faire la même chose avec la mission TESS. On est également impliqué sur un autre instrument dont je n'ai pas parlé, qui va faire des transits. Alors là, la stratégie est un petit peu différente. C'est un instrument de classe S, hein, pour ce qu'on appelle les small missions de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle KEOPS. Et KEOPS, la stratégie est différente. C'est un instrument, donc vous avez vu, on fait avec les transits, les détections de transit, ensuite on fait ce qu'on appelle du suivi par vitesse radiale. Là, la stratégie est différente, toujours sur les étoiles brillantes, on se dit, ah ben les planètes détectées autour d'étoiles brillantes par vitesse radiale, eh bien on va essayer
de retrouver l'autre composant.
Voilà, de voir si elles transitent et mesurer leur rayon, du coup, pour connaître leur densité, etc. Donc c'est l'objectif de KEOPS, qui n'est pas du tout survey du ciel, mais qui est vraiment, si vous voulez, c'est un télescope qui observe une seule étoile à la fois pour chercher si oui ou non il y a un transit, ou pour parce qu'on sait qu'il y a une planète qui transite et on va avoir une meilleure mesure du rayon.
Une mesure fine d'un morceau du ciel.
Exactement. Et donc là, à Marseille, nous sommes impliqués hein, sur la préparation de la mission. On fournit le logiciel de ce qu'on appelle de réduction des données, puisque comment on passe des images qu'envoie l'instrument, le télescope, à une, ce qu'on appelle la courbe de lumière, hein, un point de mesure.
Ouais, ouais. Un graphe en disant, on a un trou ici.
Voilà, par exemple.
D'accord.
C'est ça. Donc, et là, donc, ben, dans les années à venir, on va avoir à analyser les données que vont nous donner à la fois KEOPS et TESS, et puis finir la préparation de plateau, faire en sorte que ça soit une belle mission et qu'elle donne tout ce qu'on espère, et en particulier des planètes analogues à notre Terre, oui.
Vaste programme, comme aurait dit Général de Gaulle, mais c'est vraiment très très intéressant. Et ça doit être vraiment être passionnant.
Ben absolument, mais d'ailleurs je ne fais plus du tout de disque circumstellaire depuis 2007 en fait.
Ben, c'est très bien. Écoutez, moi ce que je vous souhaite, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que ben, ces recherches débouchent sur quelque chose et qu'un jour on puisse dire oui, effectivement, on a trouvé une planète, il y a de l'eau, il y a des traces de vie, ça émet quelque chose qu'on s'est repéré. Et on a un espoir que ça puisse donner sur quelque chose. C'est bien. Et pour une petite touche d'humour, en fait, nous, vu d'un extraterrestre qui serait à quelques milliers d'années-lumière et qui serait capable de nous observer, nous, on serait son exoplanète.
Absolument.
Voilà. Donc, on est toujours le quelque chose de quelqu'un.
Absolument. Vous avez entièrement raison.
Voilà. Bien. Merci, madame.
Bien.
Je vous remercie beaucoup de cette interview. Je suis certain que nos auditeurs vont beaucoup apprécier ça. Et encore une fois, si ça peut donner des vocations, on aurait été très contents de pouvoir leur faire passer ce genre de message.
Bien, ben, je vous remercie.
Bonsoir et bon travail à l'Observatoire.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Espace Horizon Inaccessible. Une émission présentée par Jean-Jacques Ibos sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace.